du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois-Migros. Notre invité vous accompagne du lundi au jeudi de 7h à 9h, ici même à cette antenne. Et bien sûr, c'est l'animateur de l'émission Debout VM. Histoire de vous le faire découvrir autrement qu'à l'animation de son émission du matin, nous avons donc le plaisir d'accueillir le grand, le seul, l'unique, Michel Gailloux. Bonjour.
Merci infiniment, vous avez raison d'ailleurs.
Monsieur Gailloux.
Monsieur Dubois, bonjour.
Vous allez bien?
Ben, je suis en excellente forme.
Pour vous, il est tard.
Mais je trouvais que j'étais jeune pour participer à votre émission.
Ben, jeune de cœur.
Oui, non, c'est vrai, je suis pas si jeune que ça, finalement. J'étais là à l'Expo 67. J'étais là surtout à l'Expo 67, à l'ouverture du métro de Montréal. J'ai voyagé. Alors quand même, j'étais là quand le président... Mais j'étais pas là quand le président était assassiné.
Mais vous n'avez pas fait la Seconde Guerre mondiale.
Non, mon père l'a fait. Et c'est après que je suis arrivé dans le boom.
De façon un petit peu plus sérieuse...
Mon père s'était retenu pendant longtemps.
De façon un petit peu plus sérieuse, Michel, pour vous, il est un peu tard, parce que nous sommes en après-midi et en soirée, si nous sommes à la reprise de l'émission.
Ouais, j'ai mangé mon souper tout à l'heure.
Parce que effectivement, vous vous levez très tôt pour faire cette émission.
Ah oui, moi, je me lève régulièrement de 2h45, 3h moins quart, pour prendre connaissance des nouvelles, préparer la feuille de route, lire les dernières informations concernant mes invités. Donc, mais aussi voir sur Internet si jamais il y a des changements, parce que ça arrive parfois qu'un invité me dit « je pourrais pas être là » ou « on change de numéro de téléphone » ou « ça sera pas possible ». Bref, il faut se lever de très de bonne heure. Mais moi, j'aime ça, j'ai toujours été un lève-tôt.
Est-ce que c'est au plan de la discipline, je présume qu'il faut quand même être assez rigoureux pour pouvoir se coucher tôt quand on se lève aux petites heures du matin?
D'abord, il faut se coucher. Mais moi, je me couche pas, je m'endors. Je m'endors de très tôt. Parce qu'effectivement, oui, ça prend de la discipline, mais une discipline, ça a l'air toujours d'être forçant. Mm-hmm. Moi, dans mon cas, j'aime ça, parce que j'aime me lever tôt. Moi, ce que j'adore le matin, c'est de prendre les informations, d'avoir des informations de Londres, par exemple. J'écoute CNN, mais là, c'est en direct de Londres. C'est les gens de l'équipe de Londres. Après ça, on a des nouvelles, évidemment, de l'Est, parce que, évidemment, ils se lèvent pas mal plus tôt que nous. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est sûr qu'au départ, quand on commence à se lever de bonne heure le matin, oui, à un moment donné, on a les yeux dans le même trou pendant un certain temps. Mais on finit par s'adapter. L'organisme, là, finit par s'adapter. Quand j'ai pas mon émission la fin de semaine, je me lève quand même de bonheur.
Mais ça demande beaucoup. On n'a pas idée. Ça demande quand même beaucoup de préparation que d'animer une émission du matin.
C'est incroyable. Tu sais, moi, je peux pas préparer. Je sais pas comment les autres travaillent, mais moi, je peux pas préparer l'émission en bas de 10 heures par jour de préparation. Ça veut dire quoi? Lire les journaux. Parce qu'avant de choisir un invité, il faut lire les journaux. Ensuite, même si j'ai des chroniqueurs, mais il faut quand même que je me renseigne sur des sujets pour essayer de poser au moins une fois une question intelligente, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand même. C'est pour ça que j'ai des invités qui comblent le temps. Je les laisse parler dans ce temps-là. Mais ça demande beaucoup de temps de préparation. Oui. Et puis, même la fin de semaine, parce qu'il y a des sujets qui vont survenir la fin de semaine. Des fois, ça m'arrive de contacter les gens la fin de semaine. Parce que quand ça arrive un événement, comme la mosquée de Québec, là, ben moi, je l'ai su de 2h45, c'est arrivé vers 21h la veille, le dimanche. Mais le matin, j'avais des gens. Tout de suite, je fais une émission spéciale. Il a fallu que je demande à Richard Loisel, directeur de la programmation, tu peux-tu me trouver des gens qui vont m'aider? Parce qu'on voulait
faire... Et qui vont commenter.
Qui vont commander à chaud, puis des gens qui sont des musulmans. On a des émissions aussi consacrées aux musulmans, donc il m'a trouvé ça très rapidement.
Un énorme travail. Vous nous proposez, bien sûr, comme tous nos invités, des pièces musicales. La première, elle est d'Yves Duteil. Un petit mot sur cette chanson.
Ben, d'abord, j'ai choisi des chansons qui soulignaient quelque chose d'important pour moi. Et la première, ben, je suis content que vous preniez celle-là, parce que la langue de chez nous, t'sais, c'est une langue belle. C'est une langue, malheureusement, qui actuellement au Québec est un peu malmenée. Et je trouve ça dommage, parce qu'on ne peut pas préserver une langue. On a beau vouloir faire toutes les lois, mais dans le fond, c'est chaque individu qui doit protéger sa propre langue, qui doit chercher à la parler le mieux possible, tout simplement parce qu'on aime ça parler le français. Alors, je trouve donc que cette chanson résume bien, effectivement, cette belle langue de chez nous.
C'est une langue belle avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle couleur de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Dutheil, la langue de chez nous. Merci d'avoir choisi cette chanson parce que, comme vous le disiez dans la présentation, la langue est parfois malmenée au Québec.
Très malmenée. Je trouve ça dommage parce que des gens de métier qui font le métier de communicateur, ils ont tellement de misère à trouver leurs mots, ils ont tellement un vocabulaire limité. Puis quand on fait de l'improvisation en ondes, on a besoin de ne pas avoir trop de problèmes de grammaire.
Et ça a toujours été une préoccupation pour vous, la qualité de la langue?
Moi, c'est ma mère, qui est un mélange d'Henri IV et de Caligula, qui, à la maison, disait... qui me reprenait, et qui reprenait tout le monde. Puis mon père, qui était de 39 à 45, 6 ans en Grande-Bretagne, parce qu'il est originaire de Québec. Quand tu as rencontré ma mère, il a posé... Ma mère est de Montréal. Il l'a abordé en anglais. Ma mère ne comprenait rien. Et puis, finalement, j'ai changé pour le français. Mais elle l'a aidé beaucoup à reprendre son français parce qu'il est parti à 19 ans. Mais chez nous, il fallait pas faire de mauvais accords. Elle nous reprenait. Et puis moi, à la petite école, je n'aimais pas tellement l'école. J'étais assez dissipé.
On s'en doute un peu.
Ouais, je sais, là, c'est surfait un peu comme réputation. Mais il fallait pas. Le français, c'était excessivement important. C'est vraiment... Ma mère parlait un français vraiment, vraiment impeccable.
Mais c'est un beau cadeau qu'elle vous a
laissé. Ah, bien, c'est un cadeau énorme. D'abord, elle m'a donné la discipline d'apprendre. Je vous ai dit, j'avais pas mauvais choix à 5 ans. Mais il reste que c'est une belle discipline. Et oui, parce que quel handicap quand on a des difficultés à parler? On pense toujours que le français, c'est strictement une question littéraire, que ce sont pour les artistes. Mais un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui parle bien français, savez-vous quoi, Armand? Il peut vendre pas mal plus ses projets.
C'est le plus bel habit que l'on puisse porter.
C'est le plus efficace dans beaucoup de situations. C'est efficace dans la séduction.
Sans aucun doute.
Mais c'est efficace aussi en politique et c'est efficace aussi dans les domaines des affaires.
Et d'ailleurs, ça s'entend lorsqu'on vous écoute le matin à Debout VM. Votre langue, elle est impeccable. Et on est toujours dans le feu de l'action.
Toujours.
Donc, si vous n'aviez pas cette volonté et cet apprentissage qui vous a été légué également par vos parents, par votre mère particulièrement, vous feriez constamment des fautes, ce que vous ne faites pas.
Ouais.
Et c'est tout à votre honneur, d'ailleurs.
Merci beaucoup. Mais c'est une seconde nature. Quand on finit par intégrer les règles de grammaire, quand on finit par être complètement détaché de ça, mon Dieu, que c'est le fun de parler une langue. Que ce soit l'anglais ou le français aussi, quand on écoute, par exemple, les Britanniques parler leur anglais,
tout à fait.
Ils ont un langage extraordinairement développé.
Ce qui nous amène à parler des gens de chez nous, les gens de mon pays, Gilles Vigneault, quel beau choix que vous nous proposez.
Quel beau texte! Ça, c'est, j'ai choisi cette chanson-là, d'abord parce que c'est une chanson merveilleuse, mais c'est une poésie, Vigneault, qui est déjà musicale. Quand on écoute les paroles, quand on les prononce sans musique, c'est déjà extrêmement musical. Mais quel sens du phrasé, quel sens de la poésie, de l'efficacité? Quelqu'un m'avait déjà dit qu'écrire... écrire, c'est comme parler. Parler, c'est parfois se taire, mais écrire, c'est parfois enlever des mots. C'est enlever ce qui est superflu. Là, vous prenez ce texte-là, ben, essayez d'enlever un seul mot, c'est extraordinaire.
Et l'édifice s'écroule.
Ah, mais totalement.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre.
Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge.
Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur.
Rachel Ribert de Latch, Aza Gazelle de toutes, se voyons à faire foutre. Pour quelle misère susoute.
Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles.
Et du loin au plus loin, de ce neige désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages, je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom.
Vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore.
Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons des clôtures.
Je vous entends chanter dans ma demi-saison, votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille.
Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix les pays pleins champs et voix des amoureux.
Douces voix attendries, des amours de village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville.
Piaillerie d'école et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin.
Les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille.
Dis-nous, acheter maintenant, dis-nous, acheter maintenant, nous t'as oui ou t'es mou, te tuer, t'as chez moi.
Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie.
Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits.
Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique.
Je vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large.
Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme un baril de poudre.
Je vous entends monter comme un grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glace en débâcle.
Je vous entends demain parler de liberté.
Le grand poète Gilles Vigneault, proposé par notre invité de la journée. Avec grand plaisir, on accueille Michel Gailloux. Je viens de mentionner grand poète.
Oui.
Quand on passe du côté des anglophones, on a eu aussi notre grand poète, je mentionne le nom de Leonard Cohen.
Ouais. Mais lui, Leonard Cohen est dans... Tu sais, je disais... Ce que je dis en français de Gilles Vigneault, on peut le dire en anglais
tout
de
à
Leonard
fait.
Cohen. Quelle profondeur dans les textes. Mais il y avait une dimension spéciale que Vigneault a moins développée, du moins dans ses chansons. C'est que lui, c'est un type qui aurait pu devenir rabbin, qui aurait aimé devenir rabbin, mais qui est resté profondément spirituel dans ses
Tout
textes.
Tout à fait.
Et dans tous les textes qu'il a écrits, beaucoup de textes qu'il a écrits, entre autres Alléluia qu'on connaît bien.
Bien sûr.
Mais l'autre chanson qu'on connaît moins bien, mais qui est extraordinaire aussi, c'est Anthem.
Oui.
Quand il dit, par exemple, que toujours, dans un mur, il y a toujours une fente par laquelle la lumière passe. Autrement dit, peu importe l'obstacle, on finit toujours par passer au travers. Quel poète, quel poète d'abord et avant tout, mais quelle musicalité aussi.
Gaétan Leclerc, le neveu de Félix, nous a raconté ici à cette antenne, et c'est Félix qui lui avait fait part de cela, qu'un jour Leonard Cohen se retrouve en Israël et doit traverser un barrage policier ou de soldats. Et il a très, très, très peur. Et finalement, bon, par son nom, on reconnaît qu'il a quand même un ascendant juif. Et il a sa guitare, et les gens aperçoivent sa guitare. Et ça lui a été, pour lui, ça a été un moment...
passeport.
Exactement, un moment de grâce, parce que quand on a vu la guitare, on l'a laissé passer et on lui a demandé d'aller chanter pour les jeunes soldats qui étaient de garde sur la ligne... Peut-être pas de combat, mais sur la ligne de surveillance.
Vous savez que Cohen, ça veut dire rabbin, hein?
Vraiment.
Oui, oui. Cohen veut dire rabbin. Et donc, il était dans la lignée. Mais quel auteur extraordinaire.
Alors, cessons d'en parler.
Oui.
Écoutons-le.
Taisez-vous, Gaillard.
Living the table.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh, no, no. It's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. Blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no. That love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. I don't need a reason. became. I've got these excuses, they're tired and lame. I don't need a pardon, no, 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 no. There's no one left to blame, I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game.
Merci Michel pour ce merveilleux choix que vous nous avez proposé.
Ça, cette chanson-là, Armand, c'est son dernier album. Il se savait, hein, il savait qu'il était sur le point de mourir. Et leaving the table. I'm leaving the table now, it's over.
Ça veut tout dire.
Ah, bon, ça. Ça veut tout donne dire. Le frisson d'écouter ces chansons-là.
Michel, vous faites cette émission le matin. Vous faites de la radio depuis fort longtemps.
Avant l'invention de la radio.
Oui, peut-être. Mais en préparant l'émission, j'apprenais que vous avez même travaillé à cette station qu'on pourrait peut-être qualifier de station maîtresse ou culte qu'a été CKVL.
Ah, mon Dieu, oui.
CKVL, 850 de Verdun. que faisiez-vous à CKVL?
Ah, beaucoup se le demandent. Mais dans le temps, on disait... c'est la première station à ouvrir une station FM, hein, CKVL. Oui. On disait, vous écoutez CKVL, CKVL Verdun. Et sur la rue Gordon, parce que je suis revenu à la radio... quelques 20 ans après en avoir fait. La première fois, j'ai fait de la radio professionnelle. Moi, j'avais 17 ans, j'étais au cégep. Puis mes parents ont dit, c'est pas un métier.
Vous aviez toujours eu ce goût de faire la radio?
Bien, toujours. J'avais 7-8 ans, puis je descendais dans le sous-sol et je faisais des caméras de télé en bois. Puis,
tous fait ça, hein, ceux qui font de la radio.
Ben, seulement les fous qui font de la radio, mais les autres, les gens normaux, n'ont pas fait
non,
ça.
Non, c'est vrai.
Parler de ça devant une caméra de bois, il faut le faire.
Ouais.
Et puis là, j'animais des émissions, j'animais des quiz. Oui, j'ai toujours été fasciné. Puis quand j'étais petit, on avait bien entendu une télévision. Et puis j'allais en arrière de la télé voir comment les personnages entraient. C'est aussi Bob Barker. Comment il y avait de bon entrer là? Et j'étais fasciné par le média. Toujours été fasciné par ça, mais fasciné par la communication, parce que chez nous, on communiquait pas mal, tu sais, chez mes parents. Moi, là, on a inventé l'Assemblée nationale, puis les débats, bien avant, mon père et ma mère, c'était des extraordinaires debaters, puis moi, j'ai embarqué là-dedans. Mais ce qui me fascinait, c'est comment, par exemple, une idée, un mot qui est dit, qui est prononcé, peut être interprété différemment, selon toutes sortes de contextes, de connotations, et avec tout le processus de déni parfois, d'évitement. C'est fascinant, ce métier de communication. Et puis pour moi, je sais pas pour vous, Armand, mais moi, le micro...
Ça nous allume, hein?
Oui.
Ça nous excite.
Mais moi, un micro, même s'il n'est pas connecté, c'est pas grave, on va parler tout seul. Les psychiatres, ils appellent ça une névrose.
On va poursuivre pour la deuxième partie.
Oui.
Terminons avec une pièce musicale. Vous nous proposez André Gagnon, Un piano sur la mer.
Oui.
Il y a une raison particulière.
Oui, parce que c'est un autre auteur. Cette fois-ci, lui, c'est pas un poète, mais c'est un poète du piano. Et j'attire l'attention des gens en écoutant cette pièce-là, c'est que c'est un piano sur la mer. Mais comment on écrit de la musique, comment on écrit... Et quand on écoute, on a l'impression d'être sur la mer. Il y a un rythme dans la musique. En tout cas, et on voit bien, on se balance, on se sent sur un canot, on se sent sur la mer, sur un bateau. Et c'est ça l'art d'écrire de la musique aussi, c'est d'évoquer des images... des sensations à partir de notes musicales. Et ça, vous allez voir, ça fait très, très maritime, très aérien.